Bonsoir, l'Université congolaise fête ses 50 ans d'existence, ce qui coïncide avec la journée de l'enseignement célébrée ce lundi 30 avril 2007 en RDC. Dialogue entre Congolais se saisit de l'occasion pour se demander si la formation dispensée actuellement dans nos universités et autres instituts supérieurs répond aux vrais besoins du pays. Que faire pour que les étudiants qui sortent des universités congolaises contribuent grâce à la formation acquise au développement du pays et enfin, quel avenir pour ceux des étudiants déjà formés et qui continuent à broyer du noir par manque d'un emploi correspondant à leur formation. Ces sujets intéressent nos auditeurs, c'est le cas d'Alain Alimbé dans la province du Sud Kivu qui pense que la formation d'aujourd'hui est adaptée sauf que les autorités ne savent pas créer l'emploi pour tous les étudiants formés. Pascal Kiboingia qui quitte au Bandundu dit FMLS perplexe, comment expliquer que plusieurs professeurs d'université doutent de la compétence des étudiants qu'eux-mêmes ont formés. Dieu d'Okazumba, Mujimaï, Kasser Oriental pense que la formation dispensée peut répondre aux besoins de la société congolaise, à condition que le gouvernement sache utiliser ceux qui sont formés. Lobatkoyi, à Kananga, au Kasai Occidental, veut savoir pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas aux universités congolaises. Et enfin, Gauthier Tifata de Mujimaï, Kasai Occidental, dit que deviennent tous ces étudiants après leurs études, si pas les cambistes, photographes et autres taximens. Pour aborder ce sujet, nous avons trois invités ce soir. Marie-Madeleine Nienze-Kiakou, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, elle est au téléphone. Professeur Florent Kabongo Makanda, recteur de l'Université officielle de Mbujimayi, il est au téléphone également. Et enfin, Dany Ngoy, président national des étudiants congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Voilà, nous disons bonsoir à tous nos invités. Les niveaux de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC a sérieusement baissé. À la base, les mauvaises conditions de vie des étudiants et des enseignants plutôt et des étudiants, sans oublier les manques d'infrastructures adéquates. Voyons tout cela avec vous, Alain Hirong.
Le document stratégique de réduction de la pauvreté des CRP révèle qu'entre 2002 et 2003, le nombre d'établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC était de 141. En France, par exemple, un pays qui a à peu près la même population, le nombre des universités et autres instituts supérieurs est dans l'ordre de 4000. En RDC, par contre, quant aux places assises, leur nombre total avoisinait entre 2002 et 2003 le chiffre de 91 000 pour un effectif de 161 000 étudiants, soit 2 étudiants pour une place assise. Par ailleurs, selon le DCRP, la surpopulation dans les universités congolaises figure parmi les causes de la détérioration de la qualité de l'enseignement dispensé. En effet, d'après toujours le DCRP, les normes internationales prévoient 7 étudiants pour un enseignant, ce qui n'est pas le cas en RDC. Mais quelles sont les facultés les plus fréquentées par les étudiants congolais? D'après le DCRP, entre 2002 et 2003, environ 31 000 étudiants étaient inscrits en sciences humaines, soit 44,55% contre environ 69 000, soit 55,45% inscrits en sciences exactes dans les universités publiques. Tous ces chiffres mettent en exergue la détérioration dans l'enseignement supérieur et universitaire congolais. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Bernard Lutuntala, l'explique par les mauvaises conditions sociales des professeurs. Mauvaises conditions sociales des enseignants, mais aussi mauvaises conditions sociales des étudiants. Pas de logement décent, pas de bourse d'études, pas de bibliothèque universitaire digne de ce nom, pas de moyens de transport adéquats. Pour se rendre au cours, certains étudiants sont obligés de réquisitionner des véhicules des particuliers, entraînant parfois des accidents, comme celui de vendredi dernier à Kinshasa, qui a fait un mort. Enfin, ajoutons à ce tableau la vétusté des bâtiments, qui pour la plupart datent de l'époque coloniale. Ces bâtiments ne subissent pas régulièrement des travaux de réfection.
Merci Alain Rungo. De son côté, le père Léon de Saint-Moulin, chercheur et professeur à l'Université catholique de Kinshasa, pense que beaucoup de choses ont changé après 5 décennies dans les formations universitaires du Congo. Il évoque également les difficultés auxquelles sont confrontées les universités du Congo comme le nombre excessif des candidats étudiants. Il a été joint au téléphone par Claude Rousset.
L'université presse la société, mais elle était aussi le reflet de la société. Du temps colonial, elle reflétait un pouvoir dominant et elle transmettait une science qui avait été conçue ailleurs. L'université est devenue nationale et l'histoire du Congo est beaucoup mieux connue. C'est le fruit de tous les travaux qui ont été accumulés. Nous sommes dans un pays qui reste quand même terriblement dépendant, tant dans ses décisions que dans son organisation et même au point de vue de ses revenus. Par l'université, on n'a pas non plus une vie autonome. Mais dire que l'université ne produit rien, c'est ne pas voir non plus tout ce qui se fait. Les recteurs ont quand même construit plusieurs bâtiments en mobilisant eux-mêmes des ressources. Une autre difficulté du pays est que la quantité de demandes d'inscription à l'université dépasse ce qui est possible d'accueillir. Mon souhait que la valorisation de l'université ne se fasse pas au détriment de ceux qui n'ont pas été à l'école.
Question à nos invités, nous venons là de suivre pratiquement un état des lieux de l'université et l'institut supérieur congolais, un secteur miné par toutes sortes de problèmes. Que pouvez-vous dire sur ce que nous venons de suivre? Nous donnons d'abord la parole à vous, M. Danny Ngoy, vous êtes président national des étudiants de la RDC, donc vous représentez tous les étudiants congolais. Que pouvez-vous dire sur ce que vous venez de suivre?
Merci beaucoup pour la parole. Vous avez remarqué que toutes les personnes ont presque parlé le même langage. Problèmes sociaux, l'État est parfois démissionnaire, ainsi de suite. C'est toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Et nous ne pouvons pas dire le contraire, parce que nous l'avons remarqué, qu'il n'y a pas de bourse, les professeurs sont mal payés, les administratifs n'en parlent pas, les étudiants sont mal logés, et tout ça contribue à ce que nous appelons aujourd'hui la baisse du niveau d'instruction au sein de nos universités.
Ok. Monsieur le professeur Florent Kabongo Matanda, recteur de l'Université officielle de Mbujimayi.
Oui.
Professeur, vous venez de suivre pratiquement cet état des lieux qui a été dressé par notre ami Alain Rung, et vous avez également suivi le professeur Léon de Saint-Moulin. Que pouvez-vous dire?
Je crois que nous parlons tous le même langage, nous avons fait l'état des lieux, le constat est le même à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout, c'est la même situation. À cela, ajouter que actuellement, c'est différent des années 60, actuellement, toute la jeunesse congolaise est désireuse de s'instruire. Alors, devant cette masse d'étudiants, les conditions de vie ne répondent pas. Et cela, l'une des grandes difficultés d'application pour les étudiants.
Ok. Professeur Florent Kabongo, dans son intervention, le père de Saint-Moulin dit que l'université fait la société et elle est aussi le reflet de la société. Alors, si l'université du temps colonial reflétait un pouvoir dominant et transmettait une science qui était conçue ailleurs, comme il est dit, qu'en est-il aujourd'hui avec cette université qui s'est nationalisée, qui dépend de l'État dans son organisation, ses décisions et même ses revenus? Autrement dit, est-ce que la matière enseignée aujourd'hui à l'université congolaise traduit-elle les besoins réels du pays?
Je crois que les matières enseignées, nous avons les mêmes facultés, les facultés aussi bien en Europe qu'en Afrique, les facultés de médecine, c'est une faculté de médecine. Les étudiants, soit en Europe, qu'ils soient européens en Europe ou africains ici, ils apprennent à soigner, ils apprennent la médecine. Je ne vois pas pour certaines études techniques, la différence entre une université congolaise et une université européenne.
Mmh. Madame Marie-Madeleine Yézé-Kiakou, vous êtes vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous venez de suivre l'état des lieux qui a été fait, qui traduit un peu l'image aujourd'hui de l'université congolaise. Quel peut être votre commentaire?
Ben, je pense que tous ceux qui ont pris la parole avant moi ont essayé de donner le constat des lieux de nos universités, des instituts supérieurs, ce qui est vrai. Il y a eu une dégradation progressive, et puisque nous sommes conscients de cette dégradation, ne nous arrêtons pas aux plaintes.
Mm-hmm.
Nous devons proposer des voies et moyens
pour
essayer de sortir de ce chantier battu.
Mm-hmm.
Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur qui vient de parler, avec l'étudiant qui est intervenu, et même le révérend Père Léon de Saint-Moulin qui a donné son point de vue là-dessus. Mais je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais nous ne devons pas désespérer. Et moi, je pense que dès qu'on est conscient de ce qui ne marche pas, s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans ce pays, nous devons prendre les taureaux par les cornes et nous devons nous investir pour changer et aller de l'avant. Parce que pour le moment, je sais que tout est un peu en déliquescence, mais tout espoir n'est pas perdu. Parce que l'université, en dépit de toutes ses vicissitudes, essaye, comme dans les enseignements supérieurs universitaires en général, en dépit de tout cela, il n'a pas baissé le bras. Et je crois que le gouvernement est conscient, et c'est justement sur ce chantier, parmi tant d'autres, que nous devons nous investir.
Okay.
Les causes sont nombreuses,
okay.
C'est vrai, et il faut serrer et y aller progressivement.
Merci, madame la vice-ministre. Je reste avec vous, madame. Il y a, dans son intervention, je viens avec vous la même question que j'ai posée au professeur Florent Kabongo. Le professeur Léon de Saint-Moulin dit que l'université fait la société et il est aussi le reflet de la société. Est-ce que l'université, comme on l'est aujourd'hui, quand on la regarde, on sait voir, on sait percevoir la société à travers elle?
Mais je pense qu'ils n'ont pas tort. Quand on regarde maintenant les conditions dans lesquelles nos jeunes étudient, mais c'est l'image même du délabrement. Donc, ceux qui nous regardent nous jugent à travers les jeunes qui doivent prendre leur élève demain. Donc, l'éducation dans son ensemble, c'est le miroir même, c'est le thermomètre de la société. Et plus on avance vers l'enseignement supérieur universitaire, c'est d'autant plus important que ces jeunes sont appelés à prendre la relève pour conduire ce pays. Donc, je suis tout à fait d'accord quand on dit que l'enseignement, c'est le thermomètre d'une société.
Mm-hmm.
Et quand tout va très mal, c'est que cette société-là est un peu en déséquilibre. Donc, est-ce qu'il faut chercher le point de déséquilibre pour pouvoir redresser la situation.
Et parlons exactement de la matière qui est enseignée à l'université congolaise. Je reviens toujours au professeur de Saint-Moulin qui dit si l'université du temps colonial reflétait un pouvoir dominant et transmettait une science qui était conçue ailleurs, alors on peut se poser la question, qu'en est-il de l'université congolaise aujourd'hui? Est-ce que la matière qui est dispensée à l'école traduit-elle les besoins réels que dont le pays a besoin? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la reconstruction du pays.
Mmh.
Est-ce qu'on a réformé, on a revu un peu ce qui doit être enseigné aux étudiants, qui sont le futur cadre de demain, ce qu'ils ont dans leur syllabus, est-ce que c'est ce qu'ils vont mettre en œuvre pour que le pays se relève demain?
Écoutez, vous devez savoir que l'enseignement supérieur universitaire a des finalités.
Mm-hmm.
C'est former des cadres, des agents de développement,
mm-hmm.
des pourvoyeurs d'emplois, des créateurs d'emplois. Je pense que l'université joue ce rôle parce que les matières qui sont enseignées sont réellement ce qu'il faut, qui s'adaptent avec nos réalités. Pensez à l'université d'hier et à l'évolution du monde universitaire. Hier, c'était 3 universités. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une prise de conscience pour essayer de diversifier les enseignements selon les besoins, les attentes de la société. Donc, du point de vue programme de cours, il n'y a pas à redire que les programmes soient bons. Et même quand on doit introduire de nouvelles matières, tout simplement parce qu'il se crée un besoin et que là-dedans, on ne trouve pas de capacité pour pouvoir répondre à ces besoins, c'est sûr qu'on revoit les programmes. C'est pourquoi il y a eu tout le temps des grandes réunions qui se sont tenues au niveau universitaire pour essayer de revoir les programmes s'ils s'adaptent réellement aux besoins, aux attentes de la nation. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas mettre en doute.
Ok. Monsieur Daningoy, président national des étudiants de la RDC, vous-même, vous êtes étudiant.
Mm-hmm.
Vous étudiez où? À l'INA.
À l'INA, oui.
Okay. Ok. Ce que vous apprenez sur les bancs de l'école, traduit-il réellement ce dont le pays a réellement besoin?
Oui, dans une grande partie, oui. Mais
dans une autre, non.
bon, en fait, pas de... Les constats, c'est que, pas qu'en Inam, presque partout, nous avons remarqué que la technologie évolue.
Ouais.
Ça veut dire aussi que le cours peut être le même, mais les contenus doivent aussi évoluer.
Mm-hmm.
Mais nous avons remarqué que certains professeurs, y compris vraiment des recherches,
mm-hmm.
le même cours que tu enseignes aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est le même contenu. Même virgule, même point, même point d'exclamation, donc c'est la même chose.
C'est ce que les syllabus qu'on avait
acheté il y a 10 ans, c'est le même qu'on peut utiliser aujourd'hui et même après 15 ans. Donc c'est ce qui crée un peu un petit retard par rapport au contenu. Mais dans une grande partie, et je ne parle pas de tous les professeurs, certains oui, mais d'autres essayent de faire le leur mieux pour que les contenus reflètent vraiment la réalité sur terrain. Et il faudrait aussi ajouter que les cours qui se donnent, il y a un contexte culturel dans notre pays. Et à chaque fois que les cours se donnent, les contenus doivent s'adapter et s'adaptent, certains cours s'adaptent par rapport au contenu d'un pays.
Mmh.
Ce qui est un peu triste, ce qui fait un peu peur par rapport à la chose, c'est quoi? C'est que souvent, on est trop théorique.
Mmh.
C'est ça le problème aussi de nos universités. Nous avons parlé par des moyens, problèmes, on a déjà essayé de relever ça. Mais il y a un problème théorique qui se pose souvent. Je me dis, j'ai fait l'électronique à l'université, on me parle de telle pièce, telle autre pièce, que je ne vois que 2 fois ou 3 fois par année ou 5 fois par année, et sur terrain, ça sera comment? Ce sont des questions qu'on se pose, et on doit vraiment insister sur le cours pratique pour que aussi nous soyons mûrs, forts, sur terrain.
Ok. Professeur Florent Kabongo Makanda, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, venait de suivre là l'étudiant qui pose des problèmes réels, des problèmes rencontrés aujourd'hui sur les bancs de l'école. Il y a beaucoup de théories, mais très peu de pratiques. Et aujourd'hui, quand on parle reconstruction de la RDC, on voit des routes, on voit beaucoup de travaux à faire, mais est-ce que l'étudiant qui sort de l'IBTP, l'étudiant qui sort de l'UNITIL ou je ne sais où, est-il capable de pouvoir donner les meilleurs de lui-même pour que les pays aillent de l'avant?
Oui. Les étudiants, il y a plusieurs catégories. On en prend deux, les bons et les mauvais. Et je crois que dans toutes les universités du monde, on assiste souvent, on distingue les meilleurs étudiants et les moyens, les médiocres et comme ça. Et les étudiants congolais n'échappent pas à cela, mais les étudiants congolais ne sont pas... ils sont formés, la formation qu'ils ont ici, dans nos universités ici, je crois que c'est une bonne formation. Et aujourd'hui même, Monseigneur le Président du Conseil d'administration a parlé de 1000 étudiants. Sur 1000 étudiants congolais, qui vont à l'étranger, par exemple, on trouve 400 meilleurs, des bons étudiants qui étudient et réussissent leurs études à l'étranger. Prenons 40%, c'est déjà beaucoup, étant donné les conditions de vie dans lesquelles nos étudiants ont préparé leurs études. Donc, je crois que les étudiants qui sortent de nos universités, il y a des bons étudiants, des bons éléments et des moyens, comme dans toutes les universités du monde.
Ok. Que faire pour que les étudiants qui sortent des universités congolaises contribuent grâce à la formation acquise au développement du pays? Un auditeur de Kisangani qui a été interviewé par notre confrère Aliana Mpanagama pense qu'il faut adapter l'enseignement aux réalités du pays. On l'écoute.
Je m'appelle Abraham Komba Kanyonyo à Kisangani. Est-ce que la formation qui est dispensée actuellement dans les universités enseignement supérieur de la RDC répond-elle aux besoins de la reconstruction de notre pays?
Ce qui est vrai que nos universités, instituts supérieurs dispensent un enseignement de qualité. Quant à au deuxième volet de votre question, je dis oui et non à la fois. Oui, parce que le pays vient de la guerre. Le pays a perdu beaucoup des intellectuels. Le pays doit se reconstruire sur le plan intellectuel.
On doit former les gens.
Non, parce que cet enseignement doit s'adapter aux réalités. Je prends un exemple. Nous sommes à Kisangani ici. Nous n'avons qu'un seul institut de bâtiments et de travaux publics. Or, quand vous prenez rien que la province orientale, c'est un chantier qui nécessite une reconstruction totale sur le plan infrastructural, même sur les institutions médicales et ainsi de suite.
Et comment on peut adapter cette formation-là aux besoins du pays?
Pour adapter cette formation aux besoins du pays, il faut d'abord les experts de l'enseignement, bien sûr, pour essayer d'organiser les formations en rapport avec ces besoins. À ce moment-là, vous verrez que les choses vont aller comme sur le roulette. La réforme de l'enseignement est évidente. Elle doit être là.
Quel avenir pour les étudiants formés en RDC?
Si même politique congolais respecte son engagement, c'est-à-dire plus de guerre, plus de troubles, tout ça, il y a un avenir prometteur pour l'étudiant congolais. Parce qu'à ce moment-là, avec la paix, avec la reconstruction, il y aura les investisseurs qui vont s'intéresser à notre pays, qui vont venir et qui amèneront avec eux l'emploi.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, que faire pour que les étudiants qui sortent des universités congolaises contribuent grâce à la formation acquise au développement du pays? On va écouter le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Antoine Gizenga, dans son discours programme, a parlé notamment des moyens conséquents qui seraient mis en œuvre par son équipe pour améliorer les conditions des enseignants et de l'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est là où le Premier ministre reconnaît que des réflexions doivent être menées pour que l'université congolaise soit le reflet de la société. Antoine Gizenga.
L'enseignement supérieur et universitaire ne sera pas en reste. La question de la durée de l'année académique nous préoccupe en priorité. Des moyens importants sont nécessaires pour réhabiliter et augmenter les structures d'accueil universitaire, ainsi que pour améliorer non seulement les conditions des enseignants, mais aussi de l'enseignement. Une profonde réflexion s'impose pour que notre université soit en adéquation avec notre société, tout en fermentant par la recherche indispensable des solutions aux problèmes de celles-ci. Face aux défis multiples qui nous assaillent, le ministre de la Recherche scientifique est appelé à mobiliser nos chercheurs et notre élite scientifique afin qu'ils nous donnent les outils de notre grandeur méritée.
Ok. Question à Madame la vice-ministre en enseignement supérieur universitaire, Madame Marie-Madeleine Nyenzekiakou. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'engagement pris par le gouvernement d'améliorer, de dégager des moyens conséquents pour réformer l'enseignement universitaire?
Je pense que vous devez faire confiance à votre gouvernement. Vous venez de suivre l'extrait de sa excellence, monsieur le Premier ministre, lors de la présentation du programme du gouvernement. Et nous devons nous en tenir. Nous sommes au début et nous allons y arriver progressivement en commençant par des réformes institutionnelles, puisqu'on a parlé des textes, mais aussi à l'amélioration des conditions de l'enseignant en tant que personnalité qui se dévoue dans l'éducation de notre jeunesse, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et de l'étudiant et des enseignants. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à votre gouvernement, à notre gouvernement, que nous allons y arriver progressivement.
Ok. Nous n'avons malheureusement pas encore le budget de l'État. Est-ce que cela aussi veut dire qu'on va revoir, Madame la vice-ministre, aussi les budgets alloués à l'enseignement supérieur universitaire?
Vous venez de le dire. Nous n'avons pas encore le budget défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ayez vos apaisements quand nous aurons le budget en tenant compte des réalités de notre pays avec nos moyens d'abord. Et nous allons apprécier, donc c'est un peu prématuré de vous présenter le budget maintenant, ni la part allouée à l'enseignement.
Mais Madame la vice-ministre, lorsqu'on écoute le Premier ministre, il reconnaît qu'il faut quelque part qu'il y ait des réflexions qui soient menées pour que l'enseignement aussi soit adapté aux réels besoins du pays.
Ne vous en faites pas. Nous y sommes déjà dans notre programme au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Mmh. Le programme est déjà là. Et je ne serais pas étonné d'apprendre qu'on s'y attelle.
Ok. Monsieur Danny Ngoï, président national des étudiants de la RDC, vous êtes apaisé lorsque vous écoutez d'abord le Premier ministre et vous écoutez également la vice-ministre?
Très apaisé. Et notre souhait est que ce qui est dit soit fait, parce qu'il y a loin que dire est fait. J'espère que le dit va se marier au fait. sans payer notre souhait.
Professeur Florent Kabongo-Makanda, recteur de l'Université officielle de Mujimaï, quelle est votre réaction?
Mon point de vue, je crois que les universités, l'enseignement supérieur et universitaire du Congo revoient régulièrement à certaines périodes les programmes d'enseignement, c'est-à-dire les réformes. On effectue très souvent des réformes dans l'enseignement supérieur et universitaire. S'il y a des réformes, c'est pour adapter l'enseignement aux besoins de la nation. Donc, on ne peut pas dire que l'enseignement universitaire n'est pas adapté. Il est adapté, mais seulement une chose peut-être, le budget de l'enseignement n'est pas ce qu'il devrait être. Dans les pays développés, très souvent, le budget de l'enseignement supérieur, c'est une trentaine de pourcents du budget national. Mais si on examine le budget de l'enseignement supérieur et universitaire ici chez nous, c'est quelque chose comme 2% du budget national. Mmh. Et moi, je crois que pour effectuer des recherches, il faut nécessairement qu'on puisse y consacrer beaucoup de fonds. Parce que ici, nous parlons tous du développement. Mais le développement ne peut pas se faire sans science.
Ok.
Le gouvernement devrait assister, donc accorder des budgets de recherche dans toutes les universités. Si on regarde, le gouvernement intervient pour le salaire. Ça se limite là. Il n'y a pas un budget de recherche. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse développer? On a de bonnes idées, mais il n'y a pas de fonds pour effectuer des recherches.
Monsieur Daningol, lorsqu'il est professeur Florent Kabongo, madame la vice-ministre va réagir, hein, mais d'abord vous, je vous vois en train de bouger la tête, vous êtes tout à fait d'accord avec le professeur Kabongo?
Oui, bien sûr. En tout cas, comme je l'avais dit tantôt, il y a loin de dire et faire. Nous souhaitons que cette fois-ci, et nous espérons, nous sommes sûrs que ça sera fait ainsi, que c'est l'éducation, c'est à la base de tout. On peut beau crier, on peut beau dire, si l'éducation est foutue, en tout cas la nation à venir ne sera pas aisée. Et on dit toujours que la jeunesse aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. Et cette jeunesse n'est pas très bien formée parce qu'il y a une mauvaise volonté de budget, il y a ceci ou cela. C'est notre pays qui va en pâtir. Déjà aujourd'hui, on parle de l'eau, on parle de la forêt, on parle de ceci et cela. Et nous, jeunes d'aujourd'hui, devons défendre cela demain. Mais si nous n'apprenons pas trop bien les choses, nous ne connaissons pas bien notre géographie, nous ne connaissons pas bien nos forêts, nous n'apprenons pas assez bien, nous ne palpons pas du doigt à tout cela, comment allons-nous défendre notre pays demain? C'est pourquoi j'ai dit, et j'ai raison le professeur et le recteur du conseil de
l'université
officiel de Mujimaï pour dire que les budgets jusque-là, c'était maximum 2% pour l'enseignement. Et ça ne nous regardait plus que le paye de l'enseignement. Cette fois-ci, nous voulions que, puisque le budget n'est pas encore voté, nous souhaitons qu'on puisse tenir compte et des bourses des étudiants et de la recherche scientifique, et aussi de paye. Que cela, les professeurs doivent être bien payés pour qu'ils dispensent bien leur cours, pour qu'il n'y ait pas des raisons. Je ne suis pas bien payé, du point de vue social, ça ne va pas, c'est pourquoi je suis trop absent, c'est pourquoi. On doit mettre les professeurs dans des très bonnes conditions pour que nous, étudiants, nous puissions en bénéficier, afin que nous puissions faire la fierté, non seulement de nos professeurs, non seulement des universités, mais de notre pays aussi.
Okay. Madame la vice-ministre Marie-Madeleine Miezé-Kiako, vous-même, vous êtes une ancienne de l'IEC, hein? Donc vous partagez complètement ce que les professeurs et les étudiants disent.
Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il faut un budget conséquent pour développer les bonnes idées. Et n'oubliez pas que tout développement passe toujours par des réflexions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le recteur de l'université de
Mujimaï.
Oui. Oui. Et les préoccupations de notre jeune sont légitimes.
Mm-hmm. Alors, quel avenir pour ceux des étudiants déjà formés et qui continuent à broyer du noir par manque d'un emploi correspondant à leur formation? Madame la vice-ministre, le professeur Florent Kabongo, ainsi que monsieur Daniel Ngoy, étudiant, président des étudiants, il y a un autre problème qui se pose, le problème des étudiants qui sont déjà formés, mais qui ne sont pas utilisés par les pays. Alors, avant de vous donner la parole, vous allez réagir, on va prendre un témoignage qui nous vient de Lubumbashi.
Je m'appelle Jean-Jacques Kasongo, je suis à Lubumbashi. J'ai été à l'université de Lubumbashi, dans la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. J'ai fait les relations internationales. J'ai terminé, là je suis licencié en relations internationales. J'ai terminé depuis 2001. Depuis la fin des études, je suis chômeur, je suis bradeur de monnaie, communément cambiste. J'ai attendu que quand j'ai terminé les études, j'aurai un emploi spécifique aux études que j'ai faites. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons, il n'y a pas d'emploi au pays. Alors c'est pourquoi, jusque-là, nous faisons ce que nous faisons. Nous avons étudié pour travailler pour ce pays. Si nous avons étudié, par exemple, les relations internationales, je n'ai pas fait les relations internationales pour changer la monnaie. J'ai étudié pour travailler dans les domaines bien spécifiques.
Dalingo, je vous vois en train de sourire hein, quand vous écoutez votre aîné. Mm-hmm. Alors, vous sortez de l'INA aujourd'hui, vous vous retrouvez Taximène demain, ce n'est pas une prophétie, hein, je ne le souhaite pas pour vous. Alors, comment vous pouvez réagir?
Ça fait très mal, très très mal lorsqu'on ne sait pas nous-mêmes utiliser le potentiel local. Ça fait vraiment très mal et mon sourire n'était pas un sourire joyeux, mais c'était un sourire jaune, triste. Parce que comme vous l'avez dit, dans quelques mois, j'aurai fini et j'essaierai dans la société, je me dis comment l'État va m'utiliser. Et là, il faut d'abord poser une question. Quels sont les objectifs des universités en RDC?
C'est très important.
Par contre, les objectifs des universités, je pense que c'est en ce moment que on peut créer le ministère de travail existe. On peut savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces étudiants qui sortent des universités. Et il y a dans des pays voisins, souvent, qu'ils ont l'habitude de faire, on termine les universités, on vous envoie, on se dit, bon, on a besoin de communicateurs, autant de communicateurs. C'est terminé, on vous oriente, comme ça, on vous envoie à l'étranger, vous continuez les études, boursiers, tout ça. Mais chez nous, ça n'existe pratiquement pas. S'il y a des bourses, c'est le frère de tel, la sœur de tel, et tout. Mais il faut pas encore souligner ceci. Comme je l'avais dit au départ, les objectifs de l'université. En termine, on ne sait pas qui on devient. D'abord, on s'en étudie pourquoi. C'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et il y a deux choses à ces niveaux. Il y a d'abord, moi je me dis, la faute parfois revient à nous-mêmes étudiants. Beaucoup d'étudiants étudient sans savoir pourquoi ils étudient.
C'est pas le cas avec vous, hein.
En tout cas, je ne pense pas. Pourquoi ils étudient? Souvent parce que c'est parce que papa a dit que je vais étudier, et il étudie comme ça. Parce que on m'embête trop à la base, je vais étudier, et il étudie comme ça. Mais l'objectif pour lequel c'est assigné pour étudier, beaucoup d'étudiants ne les connaissent pas. Ceux qui les connaissent regrettent, et on se dit parfois, on sent c'est loco pamba. On n'a pas étudié, mais on peut être facilement embauché quelque part, et celui qui a étudié. Il y a des diplômes valables, mais pas embauché. Moi, je pense, on doit créer une sorte de synergie. Université, ministère de l'enseignement supérieur universitaire, ministère du travail et d'autres entreprises. On a besoin d'emplois, on sait qu'à telle université, on est en forme de telle capacité. Et partant de ça, ceux qui auront peut-être distingué, ceux qui auront avec partant d'un concours, on pourrait donner la chance à tout le monde. On se réserver à X, Y, Z parce que les frères A ou sœurs A.
En tout cas, moi, je me souviens de ce qu'on me disait, parce que moi, je suis un ancien de l'ISTI. À l'ISTI, les entreprises déjà avaient déposé les besoins du personnel dont ils avaient, qu'ils réclamaient. Donc, dès que l'étudiant terminait son cycle, il était immédiatement embauché.
C'était ça à l'époque même de son excellence, madame la vice-ministre. À son époque, je pense que c'était le cas. Mais actuellement, il y a une amie qui avait dit au début, eux, le professeur, doute d'abord de l'enseignement qu'il donne à son étudiant.
Qu'est-ce qu'il y a un auditeur de qui
écoute? Oui, parfois, il vous injurie même. Mais c'est lui qui t'a dispensé cours, mais il doute encore de tes capacités. Alors, on se pose la question, pourquoi ils enseignent? Alors, si c'est vraiment les cas, moi, je me dis, qu'on réorganise, qu'on considère une bonne chose, qu'on puisse reprendre avec le système et qu'on donne la chance à tout le monde, au lieu que ce soit le frère A, le soeur A, l'emploi vient, on oriente d'une autre manière, c'est ça que les autres sachent.
Professeur Florent Kabongo Makanda, vous venez de suivre là des vrais problèmes que soulève l'étudiant, également des propositions. Il faut réformer les choses, il faut que les étudiants de leur côté, il faut que les ministères de l'enseignement supérieur universitaire et le corps professoral se retrouvent pour pouvoir dégager des pistes de solutions.
Là, il faudrait faire la part des choses. L'université forme. Il forme, il adapte son programme aux besoins et donne les enseignements aux étudiants. Mais l'université, je me demande si l'université doit maintenant chercher à placer les étudiants qu'il a formés. Moi, je crois que là, c'est une autre paire de manches.
Là, c'est la fin
de gouvernement. Ce n'est pas à l'éducateur de chercher les emplois pour ses étudiants. L'éducateur utilise, cherche à adapter l'enseignement aux besoins du pays. C'est ce que nous avons fait depuis 71, depuis la création de l'UNASA. Il y a eu souvent des réformes presque tous les 10 ans. Mais quant à poser le problème de l'emploi, moi je crois que l'emploi ne relève pas du formateur, pas de l'université.
Merci, professeur. Madame Marie-Madeleine Mienzekiakou, vice-ministre de l'enseignement supérieur universitaire, alors, quelle est votre réaction? Là, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens à l'université. Il y a notre invité, Dany Ngoy, qui est lui-même étudiant, qui reconnaît qu'il y a parmi les étudiants ceux qui viennent à l'université sans savoir, en fait, pourquoi ils sont là. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à ce que ceux qui doivent aller à l'université aillent réellement à l'université, qu'on puisse orienter les gens, que ceux qui doivent aller à tel institut supérieur pour faire, je ne sais pas, telle forme d'études dont le pays a besoin plus tard, de tel genre de personnes qualifiées pour telle matière, et ceux d'autres font une autre matière. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à cette proposition-là, Madame la vice-ministre?
Merci beaucoup. J'ai suivi la réponse du professeur. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On ne peut pas en même temps former et en même temps commencer à chercher ou caser les uns et les autres. Je crois que le problème d'emploi n'est pas un problème propre à la science supérieure universitaire. C'est un problème général dans notre pays. Et ce n'est pas spécifiquement pour la science supérieure universitaire. Il est vrai qu'il y a déjà des jeunes qui embrassent certaines études, qui n'ont peut-être pas voulu, sans idéal, ils n'ont pas été orientés. Et ça, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, c'est un effort et il y a des structures d'orientation et d'encadrement qui font que les jeunes soient orientés dans la filière où ils aspirent à s'épanouir. Mais là aussi, ils présentent les compétences pour y arriver. Mais c'est encore que les jeunes prennent conscience que ce n'est pas parce que dans la famille il y a des médecins que tout le monde est devenu médecin, quand il y a des juristes que tout le monde est devenu avocat. Donc, là aussi, c'est un effort que nous allons poursuivre dans l'orientation et l'encadrement des étudiants.
Madame la vice-ministre, est-ce que ces structures d'orientation au niveau des universités et instituts supérieurs, est-ce que ça fonctionne réellement?
Bon, ce sont des structures qui existent. Quant à leur fonctionnement, c'est ce que nous allons vérifier.
Mm-hmm.
Et là où il y a une certaine léthargie, redynamiser. N'oubliez pas qu'au niveau de la commission permanente des études, qui, dans le souci d'encadrer les étudiants, organise des séminaires. Et tout enseignant de l'ESU est déjà passé au moins une fois à ce séminaire-là, et on sait très bien comment on doit encadrer les étudiants. Donc, évidemment, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus généraux, qui font que peut-être que cet encadrement n'est pas efficace pour le moment, mais nous devons redynamiser cela et le ministère de l'enseignement supérieur s'y attelle. Parce que quand on parle de réformes, il y a les programmes, mais aussi dans la manière d'encadrer les étudiants, la manière d'évaluer les étudiants. Ce sont toutes ces réflexions-là. On doit se mettre autour d'une table pour repenser, parce que notre enseignement supérieur universitaire n'est pas statique, donc il ne faut pas avoir peur. Et quand en ce qui concerne l'emploi, sachez que le programme du gouvernement a aussi comme chantier l'emploi. Okay. Je pense que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a un vaste programme pour étudier les bons moyens pour répondre aux attentes de ces jeunes qui terminent.
Merci Madame la vice-ministre. Je crois que notre auditeur Christian de Kisangani, dans la province orientale, a trouvé satisfaction à sa question. Sa question était de savoir quelle est la précision politique ou bien la réponse politique que le gouvernement actuel donne en matière d'embauche des personnes qui sont formées dans les institutions universitaires du pays. Je reviens rapidement à vous, Madame la vice-ministre, avant de donner la parole à Pamela Amunazo pour les auditeurs. Je reviens à vous pour vous reposer la question. Compte tenu de ce que nous venons de suivre, le témoignage qu'on a suivi de Lubumbashi, peut-on, ceux qui ont été déjà formés et qui n'ont pas trouvé l'emploi correspondant à la formation acquise sur le banc de l'école, doivent-ils désespérer, Madame la Ministre?
Moi, je pense que l'être humain, s'il a étudié, s'il est inscrit, c'est justement pour pouvoir s'adapter à plusieurs situations. Là, comme on dit, quand on n'a pas de givre, on mange des merles. Donc, ça signifie que, en attendant, si on trouve un job qui te rend noble, c'est-à-dire que tu ne vas pas demander dans la rue et que tu trouves un petit job en attendant que tu trouves le job qui répond parfaitement à votre formation. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Notre ami qui a fait les études en relations internationales vient de dire qu'il n'a pas été préparé pour faire les candidats, mais je pense déjà en attendant, je crois, qu'il ne chôme pas, il se débrouille, mais nous devons aspirer à donner l'emploi qu'il faut aux études qui correspondent.
Merci Madame la Ministre. Bonsoir Pamela.
Bonsoir Félicie.
Que disent nos auditeurs?
Déléa Guimena, dans la province de l'Équateur, croit que l'université congolaise est en crise. Patrick Moukia Kikwit, dans la province du Bandundu, propose ceci. Restaurer le système d'orientation avant d'entrer à l'université contribuerait à relever le niveau d'enseignement. François Mukiambe à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, pose cette question. Pourquoi continuer à former des universitaires si rien n'est fait pour les encadrer? Et un autre auditeur a l'impression que les études universitaires au Congo contribuent à la chute du pays car les programmes ne sont pas adaptés aux réalités. On doit cesser avec la science de l'ignorance. Terminons par Zadoki de Goma dans la province du Nord Kivu qui pense que le non-paiement des enseignants fait place à la corruption. Par conséquent, il y a baisse de niveau d'études.
Merci Pamela. On a reçu près de 300 réactions. Bon, on ne peut pas les lire tout à l'antenne. Hein. Merci à tous nos auditeurs. Réactions de nos auditeurs. De nos invités, vous allez choisir une réaction ou une question et chacun a une minute pour pouvoir réagir. Nous allons d'abord prendre le professeur Florent Kabongo Makanda, recteur de l'université officielle de Mbujimayi.
Je crois que la réaction, très souvent, les étudiants, je ne sais pas ceux qui vont poser ces questions, sont des étudiants ou des gens qui ne sont pas passés par l'université. L'université, notre université congolaise a bel et bien adapté ses enseignements. Mais qu'on sache qu'il y a des étudiants, ces étudiants moyens ou médiocres, qui franchissent quand même des années de promotion pour arriver au sommet avec un bagage intellectuel qui ne peut pas le faire avancer. Et ces gens-là, ils peuvent terminer, mais ils ne sont pas. Ils n'ont pas le savoir faire convenable ou ils ne sont pas vraiment à la hauteur. Et très souvent, ou bien après avoir échoué à des tests et tout cela, et voilà, il est découragé.
Merci pour
ça. Très souvent, j'ai l'habitude de dire aux étudiants,
rapidement,
tout d'abord, vous êtes aux études, visez à obtenir tout d'abord le diplôme.
Merci.
Parce que quand il y a une
certaine... Merci, professeur. On va prendre la réaction de Mme Marie-Madeleine Miezekiakou, vice-ministre de l'enseignement supérieur universitaire.
Oui, je vais revenir sur la réponse du professeur. Et il a raison qu'il y en a qui jugent l'enseignement ou les programmes inadaptés ou qui ne conviennent pas. Je crois qu'ils n'ont pas très bien approfondi leur réflexion. Je reviendrai pas là-dessus, le professeur a déjà répondu. Et je vais revenir sur le système d'orientation.
Rapidement, madame, parce qu'on est vraiment à la
L'orientation existe.
Oui.
Mais parfois, ce sont des étudiants eux-mêmes qui se cramponnent par, je ne sais pas, qui veulent faire à tout prix tels enseignements, même si ce ne retrouve pas plus tard dans cette peau.
Merci, madame. Merci, madame. On a bien compris. Un ou deux mots, Dani.
Des mots, avant qu'on soit à l'université, on doit être au secondaire. Je pense que tout doit commencer par là, avant de parler de l'université.
C'est fini. Merci, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à tous nos invités. Merci également à tous nos auditeurs qui nous ont suivis partout où vous êtes. Et on se retrouve la prochaine fois. Bonsoir chez vous.
Okapi, okapi.